Ben, si tu veux, c'est un petit peu aussi le même problème. Enfin, je m'ennuie de parler de moi, ben, puisque tu vas me cerner, tu vas me piéger de toute façon.
L'instant 2.
L'instant 2.
L'instant 2. Vous allez rencontrer quelqu'un.
On m'a souvent dit, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire. Je crois pas à ça. Je crois qu'il faut avoir une loi, il faut être sa vérité. Il faut se battre proprement, loyalement. Mais il faut savoir que chaque jour est un combat. Le lendemain, il faut tout refaire. Il faut aller chercher. C'est merveilleux, aller chercher les gens qui veulent pas, qui se refusent, par pudeur, comme ça, lentement, on ne peut pas tricher.
Un invité,
partez à sa rencontre, prenez le temps de partager.
L'instant 2
sur Radio Grenouille.
Colette, une femme affranchie, titre l'excellent hors-série du Monde du mois d'octobre. La phrase d'accroche en dit beaucoup sur l'anticonformisme de cette figure littéraire. Je veux faire ce que je veux. Et ce qu'elle dit, la romancière le fit. Tandis que quelques jours plus tard, Chantal Akerman décide, elle, de laisser Orphelin. Ce certain cinéma féminin, osons féministe, bon sens n'est pas un gros mot, qui a osé, pris des risques, cassé les codes, les contraintes et les frontières. Comment serais-je à penser que les meilleurs partent en premier ? Il n'y a pas de frontières que si l'on en crée, justement. Car où sont-elles quand on y pense ? Lesquelles existent en réalité, pragmatiquement ? Celles du cœur, de l'âme, des océans, des atomes crochus ou non qui traversent nos relations avec l'autre ? Celles des pays qui en subissent les conséquences suite à certains découpages arbitraires d'un territoire par d'autres puissances ? Les frontières de classe, de race, de sexe, de genre, d'âge, toutes celles-ci sont bien réelles, souvent si ancrées dans nos schémas culturels et mentaux. Indécrottables, dirait-on. Il ne tient pourtant qu'à chacun, car nous sommes encore des êtres libres de penser, non ? De refuser au quotidien d'accepter ces murs, de s'indigner contre la création de nouvelles barrières inventées de toutes pièces. La tâche est lourde, oui, le chemin long, le combat peu aisé, c'est vrai. Et parfois, quand le ciel social devient bas et lourd, on se décourage, car on voit que les différences entraînent méfiance et haine alors qu'elles sont si riches. C'est vrai. En levant le nez, quelques secondes seulement, il s'avère que la lumière brille toujours au moins un peu au-dessus du lac de brouillard. Mon invitée arrive ainsi à point nommé, même si elle n'a pas la couleur qu'on attend d'elle, que la société imaginerait découvrir en prononçant son nom. Elle s'appelle Adrienne. D'origine camerounaise, française, sa peau est blanche, elle est albinos. Son regard presque translucide, où l'on se plonge dans une douceur infinie, cache une existence parfois chaotique, des souffrances aussi, celles de son chemin de vie et celles de ses frères et sœurs de couleur, aujourd'hui encore malmenées. Un sourire franc et direct, qui crie surtout beaucoup d'obstacles surmontés, c'est une femme au courage hors norme, dit-on. S'affirmer dans le monde, c'est se distinguer, écrivait Camus, et sa distinction, sa différence, d'abord subie, elle l'a transcendée, elle en a fait une force, une fierté, un engagement ici et ailleurs grâce à son association Anida. C'est une fierté partagée de la recevoir dans l'instant 2, et c'est sous sa parole, sous un arc-en-ciel de nuances et de palettes de couleurs, que je déclare ouverte et sans frontières, ou plutôt bousculée, mais toujours dans la dignité d'autrui, l'instant 2 du mois de novembre.
Un moment, s'il vous plaît.
Bonjour Adrienne.
Bonjour.
Comment on prononce votre nom ?
N'tanke.
N'tanke. J'ai pas osé le prononcer. Je voulais pas l'écorcher. C'est bon ? N'tanke,
oui.
Alors.
Oui.
Là, on est d'accord là-dessus. Comment ça va aujourd'hui ?
Ça va. Malgré le froid, ça va.
Malgré le froid ?
Oui.
Vous n'aimez pas le froid ?
Non.
Pourquoi ?
Je sais pas. Pourtant, ça fait longtemps que je suis en France, mais j'arrive pas à m'habituer à l'hiver.
Ouais.
J'ai du mal.
Vous avez du mal ?
Mm.
Vous couvrez plus alors ?
Oui.
Comment vous faites ?
Je mets des pulls, des pulls, manteau, écharpe.
Ah oui, plusieurs couches quoi.
Voilà.
Il y a une phrase que j'ai lue là, dernièrement, c'était sur le site de l'ONU. C'est Zeid Raad al-Hussein, au commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme. Il dit : il n'y a pas de place au XXIe siècle pour des croyances erronées et novices ou pour la discrimination sur quelque base que ce soit. Il parle des personnes atteintes d'albinisme, comme vous, qui méritent la dignité comme tout autre être humain. Ils ont droit de vivre à l'abri des discriminations, des privations et de la peur. Ça vous parle, ça ? C'est exactement ce que vous défendez, ou à quelques mots près ?
C'est ça, c'est ce que je défends au quotidien. Et c'est pour ça aussi que je suis venue aussi ce matin pour parler de l'albinisme et surtout faire connaître aussi la maladie, parce qu'il faut informer aussi les gens sur la maladie et expliquer aussi que les personnes atteintes d'albinisme dans les pays d'origine d'où on vient souffrent beaucoup. Et que ce serait bien, en fin de compte, que les politiciens s'en occupent. Parce que dans la population, on est quand même une minorité, mais cette minorité, elle est délaissée, abandonnée. Et dans certains pays aussi, on est sujet aussi à des meurtres, des sacrifices.
On va en discuter de ça aussi. C'est Adrienne, moi je m'appelle Mélanie, et ça vient de mélanos, mélanine. C'est ça en fait l'albinisme, c'est que vous en manquez.
C'est ça.
C'est la cause de l'albinisme.
C'est ça, on n'a pas de mélanine. Le souci, c'est l'albinisme, il y en a partout, c'est universel, il y en a dans toutes les origines, tous les êtres vivants, il y a de l'albinisme, existe même chez les insectes, les plantes. En Afrique, là où ça pose problème, où on est rejeté, tué à la naissance, discriminé. En gros, les gens, ils nous tuent à cause de ce qu'on est. Et je trouve que c'est grave qu'au 21e siècle, qu'en 2015, que je peux même pas dire que c'est une race, que des personnes sont tuées pour ce qu'ils sont, parce qu'on est atteint d'albinisme. Donc il y a toutes sortes de superstitions autour de nous.
Pourquoi on tue un albinos? Pourquoi on essaie de récupérer parfois ses organes? Pourquoi on les achète? Pourquoi on les vend?
Franchement,
quelles sont les justifications des gens qui font ça?
Tout commence déjà par... Déjà, en plus, ceux qui ont besoin de nous, ce sont les personnes riches. Et c'est ça, je ne comprends pas, parce que normalement, les personnes riches, ils sont censés faire des études, ils sont censés être instruits,
oui.
Mais ils croient encore à des choses qui sont... je ne sais pas... Ben, c'est pas normal. Mmh. Parce que normalement, c'est quand on n'a pas l'accès à l'éducation qu'on manque d'informations, mais ces gens-là vont à l'école, ils ont accès aux postes, et ils se servent plus des personnes qui sont modestes, voire même pauvres. C'est eux, en fin de compte, qu'on va leur payer des sommes dérisoires pour qu'ils aillent capturer un albinos. Et après, de ça, eux, ils croient que le fait d'avoir, par exemple, peut-être le bras d'un albinos ou une partie du corps d'un albinos, ils vont prospérer, par exemple, dans leur travail, ils vont gagner les élections, ils vont avoir la vie éternelle, toutes sortes de préjugés qui ne sont pas vrais du tout. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, je ne sais pas comment ça a commencé, mais je sais que c'est la plupart de ces gens... En gros, l'Afrique, eux, ils n'ont toujours pas compris, la plupart des Africains, que le travail, que le mérite, en fin de compte, c'est de travailler. Voilà. Quand on travaille, on a, en fin de compte, son salaire, on a accès à la réussite, mais eux... Ils ont toujours des croyances bizarres, des coutumes bizarres.
Adrienne, on sent que ça vous... C'est pas évident. Alors, je ne sais pas si c'est aujourd'hui particulièrement, parce que vous en parlez beaucoup de l'albinisme grâce à votre association. C'est difficile parfois d'en parler. Il y a des jours où vous n'avez pas envie.
Non, moi, j'en parle tout le temps parce que...
Il y a des jours où c'est trop dur.
Le problème, c'est... Non. Moi, c'est dur pour moi parce que moi, j'ai été maltraitée à cause de ce que je suis. Et c'est ça, j'ai pas compris pourquoi j'ai été maltraitée à cause de ce que je suis.
Pour ceux qui nous écoutent, à 5 ans, vous étiez au Cameroun, et à 5 ans, votre famille vous a envoyé en France.
C'est ça.
Encore, s'est passé comment ?
J'ai eu la chance de venir en France, parce que peut-être si mon père, par exemple, n'aurait pas été instruit et qu'il n'aurait pas eu des moyens financiers pour m'envoyer en France... Peut-être je serais restée dans mon pays d'origine et peut-être qu'on m'aurait tuée, je ne sais pas. Mais...
Comment vous le ressentez ça? Vous pensez avoir eu de la chance, même si ça a été dur en France à partir de 5 ans?
Entre guillemets, oui, quand même. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, même malgré toute la souffrance que j'ai eue, j'ai réussi quand même à surmonter ça. Et j'ai pu avoir une vie de famille, de beaux enfants.
Il y en a un qui est là, juste derrière vous, dans
voilà,
le studio.
C'est ça.
Steven? C'est
oui,
ça?
Oui, j'ai pu me reconstruire. J'ai eu la chance quand même d'avoir été aimée pour de vrai, par des vraies personnes, par de vrais hommes aussi.
Ça veut dire quoi, être aimée pour de vrai, Adrienne? C'est beau ça, moi j'aimerais connaître la recette.
Être aimée pour de vrai,
c'est
être aimée pour ce qu'on est, pour ce qu'on représente. Voilà, pour moi c'est ça, aimer pour de vrai. Parce que l'autre aussi, il va nous comprendre, il va nous accepter tel qu'on est, sans essayer de nous changer. Et malgré mon albinisme, en tant que femme, j'ai eu la chance quand même de recevoir ça de certains hommes. Après, ils m'ont pas aimé en plus parce que je suis albinos, parce que comme la plupart des Occidentaux, ils savent même pas comment c'est ce que c'est l'albinisme. Donc certains, par exemple, des personnes, des hommes que j'ai rencontrés, eux, ils croyaient que j'étais une blanche, vous voyez.
Ouais.
Donc c'est après que je leur ai expliqué que j'étais atteinte d'albinisme, que mes parents étaient noirs, et que j'avais pas de mélanine, et que je ne pouvais pas bronzer, que là, je leur ai expliqué ça. Donc pour moi aussi, c'est une chance, ça. Ensuite, j'ai pu aussi avoir accès aussi à l'école, même si j'ai pas pu faire des études comme je le souhaitais, parce que mon parcours aussi, il a pas été facile.
De famille d'accueil en famille d'accueil ici en France, hein,
c'est ça. Mais par exemple, si j'aurais été dans une famille bien encadrée, je sais, peut-être aujourd'hui, je réussirais encore mieux ma vie qu'aujourd'hui. Mais je suis quand même fière de ce que je suis devenue, parce que malgré toute cette souffrance-là, eh ben, je pleurniche pas dans mon coin, vous voyez, je me lamente pas à longueur de journée. Au contraire, le fait de connaître le rejet, la différence, le mépris, et ben, c'est grâce à ça, en fin de compte, que quand j'ai fini, en fin de compte, de me reconstruire, que là, j'ai décidé aussi de créer une association pour informer les populations de ce que c'est l'albinisme et venir en aide aux personnes atteintes d'albinisme du mieux que je pouvais.
L'instant 2.
L'instant 2.
L'instant 2. Vous allez rencontrer quelqu'un.
Ça, c'est quand vous êtes retournée au Cameroun.
Oui.
À quel âge?
Bon, à 19 ans, je suis 18 ans et demi, 19, oui, 18 ans et demi, je suis retournée au Cameroun, 18 ans même, parce que le fait d'avoir changé beaucoup de famille d'accueil, moi, quand j'étais plus jeune, je faisais beaucoup de bêtises,
Ça va mieux maintenant?
Bah oui.
Vous faites des bêtises encore ou pas?
Oui, mais...
allez, Adrienne.
Si, j'en fais.
Ah, vous en faites, que ça
oui,
va, alors.
Oui,
des fois. Il en faut un peu.
Oui. Mais
à l'époque, c'était de grosses bêtises.
Voilà, et même les bêtises que je fais aujourd'hui, on est adultes, donc on assume quand même. Tandis que quand on était plus jeune, j'avais un problème déjà avec l'autorité, parce que comme j'ai été maltraitée par les adultes, donc du coup, les adultes, je ne les aimais pas du tout. Et du coup, c'était difficile pour moi d'obéir en fin de compte à ce que les adultes me demandaient. Donc à longueur de journée, je défiais tout le temps. Et un jour, j'ai été présentée devant le juge et elle a voulu me mettre en prison.
En France, ici?
Oui.
Et là, vous êtes partie au Cameroun?
Oui, du coup, en fin de compte, pour m'échapper, je lui ai demandé, ce serait mieux en fin de compte que j'aille au Cameroun, parce que je n'ai pas revu mes parents depuis l'âge de 5 ans. Et je pense que ça doit être aussi les raisons pour lesquelles aussi je suis aussi perturbée, aussi agressive. Et ça n'allait pas du tout.
Et ça vous a soulagé de revenir au Cameroun, ou ça vous a renvoyé une violence dans la mesure où vous avez peut-être compris à ce moment-là le problème réel de l'albinisme et ce qui se passait là-bas en Afrique?
C'est ça. Donc, en fin de compte, j'ai eu deux chocs, parce que de 5 ans jusqu'à l'âge de 17 ans, on n'a jamais vu son pays. Et l'Afrique, ce qu'on voit à la télé, c'est pas la même chose de ce qu'on s'imagine. Et après, quand on se retrouve là-bas, moi, à l'aéroport, déjà, j'ai eu peur. Parce que je suis arrivée, il y avait des noirs de partout, ça criait. Il y avait toute ma famille qui était là et je reconnaissais personne. Pour moi, c'était que des étrangers.
Que vous aviez laissé à l'âge de 5 ans.
Voilà, donc j'ai reconnu personne. Donc je suis restée avec eux malgré moi pendant... En plus, je suis restée 6 mois au Cameroun, hein, franchement.
Ah ouais.
De temps de renouer des liens familiaux. Et là aussi, pour la première fois, c'est là où j'ai vu des personnes atteintes d'albinisme que je n'avais jamais rencontrées ici en France.
Vous n'aviez jamais croisé d'albinos de 5 ans à 18 ans en France? Jamais?
Non. Et du coup, le fait d'avoir vu aussi des personnes atteintes d'albinisme comme moi, j'ai vu qu'il y avait une différence, parce que ceux du Cameroun, ils étaient tachetés, d'autres ils avaient la peau qui était rouge par le soleil, d'autres ça suintait. J'ai vu ça, ça m'a fait tellement... Je sais pas, ça m'a fait encore un autre choc. J'ai fait, mais comment ça se fait qu'il y a une telle différence? Parce que, en gros, quand je me suis rendu compte aussi de la réalité, du coup, moi, je pouvais plus me plaindre de tout ce qui m'était arrivé quand j'étais plus jeune. Parce que même si j'ai été maltraitée, je me suis rendu compte que eux, c'est grave.
Ouais.
Parce qu'ils ont rien, ils ont rien, ils ont rien...
Mais en France, vous étiez consciente que vous étiez albinos ou pas?
Non.
On vous discriminait en France ou pas?
Moi, j'étais maltraitée que à la maison, et c'était des noirs qui me maltraitaient. Ouais. Mais quand je sortais de la maison, j'allais à l'école et à l'extérieur, j'étais choyée justement à l'école par les profs, les enfants, les maîtres et les enfants les maîtresses, comme je travaillais très bien à l'école, donc ils avaient déjà parlé aux enfants comme quoi j'étais malvoyante, donc les enfants ils faisaient attention à moi. Donc moi j'étais plus contente d'être à l'extérieur de la maison que à l'intérieur. Donc j'aimais pas quand je rentrais chez moi, quand c'était le soir pour rentrer chez moi ou les vacances, moi j'aimais pas du tout. Donc j'ai commencé même à fuguer très tôt, à l'âge de 8 ans, j'ai commencé déjà à fuguer ici en France. Ça a été très 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 difficile. Moi, j'ai plus souffert parce que j'ai pas eu d'amour. Voilà. J'ai grandi sans père ni mère. Et du coup, ce que je suis aujourd'hui, je sais même pas, franchement, je sais même pas comment j'arrive à me comporter même en tant que maman, parce que j'ai rien reçu, j'ai rien eu, pas d'amour, rien, j'ai eu que des je me suis fait... Je vous dis même pas tout ce que j'ai subi. C'était horrible. Il y a que j'ai eu la chance de pas avoir été violée, mais tout le reste, que la maltraitance physique, psychologique.
J'ai même tenté
de me suicider.
Vous savez quoi, l'amour, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a pas de frontières en général, et que là, moi, j'ai envie de vous en donner un peu dans l'instant 2, avant de parler de votre association. Vous acceptez si je vous donne un peu d'amour ou pas?
Oui, je veux bien.
C'est vrai?
Oui.
Si je vous en donne en musique avec Salif Keita et Cesaria Evora, ça vous dit aussi?
Oui.
Super. Yamore, alors, ça s'appelle.
Merci.
De l'amour, et on retrouve Adrienne Tanque. Tanque? C'est ça?
Tanque.
C'est bien dit. Tanque. Oh, j'ai raté votre nom.
C'est pas grave.
Bon, l'amour est quand même là. À tout de suite. Vous êtes dans l'instant 2 sur Radio Grenouille, depuis Radio Campus Paris.
Yana mo kofie nero sila don kilile le ile kola aha ilene la muluku moso yana mo kofie soro fale mo sonyo mana osikote no ne kona ne ile le le fe
je t'aime mi amore veni bepie enele ara. Je t'aime, mi amore, mes divers filles, et elle est à la vie là, too much.
Chérie, ne bifle. On t'aime fait, si on t'aime fait. Non, ta vie vive, c'est me dit confiance, non, elle a ma guison. Olhar de nós criança, tá torna brilhar de inocência. E na noite cês gritaiada, temporal talvez tá mainã. Na brandura e calmaria, nós amor tá bem descansar. Disse luta e resistência, para sobreviver nessa tormenta. Na brandura e calmaria, nós amor tá bem descansar. Disse luta e resistência para sobreviver nesta tormenta.
Je t'aime, mi amor, e vedi per fie, e nele arabili la, tu mat.
Boinha desafio, dedo mais.
Je t'aime, mi amor, e vedi per fie, e nele arabili la, tu mat.
Venez d'écouter Yamore de Salif Keita, pardon, et Cesaria Evora dans l'instant 2 du mois de novembre avec vous, Adrienne. On va le dire parce que on ment pas trop à la radio. Ça vous émeut, cette chanson-là? Ça vous a ému? En l'écoutant, il y a quelque chose qui se passe ou pas?
Oui, quand même, oui.
Qu'est-ce qui se passe?
Bah, y a plein de choses qui remontent. Le fait aussi de parler aussi de son passé et puis d'écouter aussi cette chanson avec Salif Keita et César Ivoirien, bah, il lui dit qu'il aime, donc du coup, oui. Mais après, ça va mieux, c'est passé.
Salif Keita, ça fait partie des figures voilà, de l'albinisme en musique, en tout cas. Il est malien
C'est ça.
D'origine. Lui aussi, il a peut-être besoin de crier l'amour et de le dire parce qu'il en a peu reçu ou pas assez.
Je pense aussi, oui.
Et la musique, ça vous permet de transformer la souffrance que vous avez ressentie pour en faire une force, une lumière. On dit souvent ça de la musique, que ça permet de transcender les souffrances, transcender les obstacles et de les projeter comme ça sur les gens et de donner des choses. C'est ce que vous essayez de faire au quotidien avec votre association Anida
C'est ça.
pour l'albinisme. Depuis 2011, en fait, ça fait 4 ans maintenant.
Oui.
4 ans, c'est quoi la fréquence de votre engagement dans cette association? Elle est totale?
Oui, puisque ça fait partie de mon combat au quotidien, donc oui.
Ici et ailleurs? En Afrique, en France, partout dans le monde, c'est vraiment pour sensibiliser, d'une part, sur l'albinisme, et il y a un aspect sensibilisation politique et puis un aspect santé aussi, parce que l'albinisme,
c'est ça.
Vous l'avez déjà un peu évoqué au début de l'émission, entraîne des problèmes de vue, de peau, de cancer parfois plus importants que pour d'autres, donc du coup une protection.
Bah, ici, on n'a pas vraiment besoin de tout le temps mettre de la crème solaire parce que le climat est tempéré ici. Le matériel, on collecte plus le matériel beaucoup pour ceux d'Afrique. Donc, on collecte auprès des entreprises, des laboratoires là, pharmaceutiques.
Pour les envoyer en Afrique ensuite.
Des crèmes solaires, des produits nettoyants, des produits hydratants, des produits désinfectants, toutes sortes de matériel. Bon, en tout cas, on collecte des produits auprès des entreprises. Et après, on leur demande l'autorisation, soit pour les mettre sur le site internet à un prix très réduit, ou souvent, on leur demande même gratuitement s'ils peuvent nous les donner. Et après, nous, on va les délivrer aux personnes atteintes d'albinisme en Afrique.
Votre association Anida, elle est soutenue par le gouvernement, financièrement aussi, par des institutions, des entreprises, ou vous faites ça seul, grâce aux dons aussi?
Là, on fonctionne vraiment grâce... On n'a pas de subvention de l'État français, ni de subvention des entreprises. Par contre, ils nous font des dons de matériel uniquement.
Restons un peu sur l'émotion aussi, parce qu'elle est très présente là, pendant l'émission, donc voilà, je ne crois pas qu'il faille la refuser. J'imagine que le 13 juin 2015, où la première journée mondiale de l'albinisme a été lancée, vous avez été là aussi très émue. Vous avez peut-être... Qu'est-ce que vous avez ressenti comme sentiment? C'était une première, il était temps.
On est content quand même que l'ONU ait pu nous dédier une journée. Mais après, au niveau de la sensibilisation, le 13 juin, il ne faut pas que ça arrête qu'au 13 juin.
Ouais.
Donc tout au long de l'année, il faut toujours en parler, communiquer dessus, par des films documentaires ou... je sais pas, des événements, des campagnes de sensibilisation, des émissions de radio, que télé, mais pas que le 13 juin.
Bah regardez, on est là, hein, aussi, en novembre.
Voilà, c'est ça. Et apporter aussi beaucoup de soutien aussi aux associations, en fin de compte, plus dans les continents, dans les pays où ça ne va pas.
La Tanzanie, par exemple, aujourd'hui,
oui.
En particulier.
Enfin, il n'y a pas que... Là, en gros, la Tanzanie, elle est pointée du doigt parce que c'est là-bas où il y a beaucoup de massacres. Oui, mais
76 personnes assassinées pour albinisme depuis 2006.
C'est ça. Mais il n'y a pas que en Tanzanie. En fin de compte, là, c'est presque toute l'Afrique noire qui est vraiment touchée par ce problème parce que en Tanzanie, eux, ils sont tués et tout, mais dans les autres pays, les albinos, ils sont aussi... maltraités, ils sont livrés à eux-mêmes, ils n'ont rien. Donc c'est difficile pour
économiquement,
eux aussi,
socialement.
Ils mendient aussi. Donc la plupart dans les pays atteints, surtout dans les pays par exemple où ils sont de confession musulmane, donc la plupart des albinos mendient. Comme l'aumône, ça fait partie de la culture musulmane, donc les gens, ils leur donnent. Donc pour eux, c'est comme un travail, c'est devenu un travail même de mendier, donc ils vivent que de mendicité. Mais l'aide qu'ils ont vraiment besoin, c'est en Afrique, vraiment qu'il faut exporter en fin de compte les campagnes de sensibilisation, les émissions de télé, de radio.
Les documentaires, par exemple.
Aussi.
On va là-bas. En parler d'un documentaire qui a été fait là-bas, en République démocratique du Congo. Mais juste avant ça, on va sécher vos larmes encore, on va essayer, ou en provoquer d'autres, Adrienne, et vous donner encore de l'amour. On essaie, hein? On n'est pas avare de ce genre de choses ici dans l'instant 2. Il y a quelqu'un qui a voulu, comme dans chaque émission, parler de vous et nous donner peut-être un peu plus de pistes pour vous comprendre et pour vous découvrir. Je vous laisse tout simplement écouter la petite surprise de l'instant 2 et puis on reparle ensuite de la sensibilisation évidemment sur l'albinisme et du documentaire qui va être lié au son que vous allez entendre. C'est maintenant.
Parlez-moi d'elle.
Instant 2.
Comme si c'était la première fois.
C'était rigolo parce qu'elle arrivait avec ses filles, justement. Et je m'y attendais pas du tout. Je sais plus pourquoi, mais il se trouve que je suis descendue dans l'escalier pour aller lui ouvrir. Et en fait, je me suis retrouvée nez à nez avec deux filles, deux petites filles, métisses. Donc j'ai pensé que c'était que ça avait rien à voir, quoi. Et bien, je continue de descendre, et là, je tombe sur Adrienne, qui s'est laissée distancer par ses deux petites filles, qui couraient comme des dingues dans l'escalier. Et donc c'était très drôle, parce qu'Adrienne, c'est quand même quelqu'un qui est très, je trouve... très calme, alors que ces deux petites filles étaient totalement en forme, on va dire. Enfin, elles couraient partout, elles n'arrêtaient pas de papoter, c'était rigolo. Moi, je m'attendais à voir la militante que j'avais déjà rencontrée, et là, en fait, finalement, j'ai rencontré surtout, avant tout, dans cet après-midi-là, la mère, et ensuite la militante, lorsque les filles se sont enfin endormies. Ça, c'était rigolo. Je remarque que quand elle regarde son téléphone, elle a plus de mal, évidemment, à discerner ce qui est marqué dessus. Et en fait, sa manière d'être attentive aux choses, aux détails, auxquels elle a moins accès du fait de ce problème d'acuité visuelle, il y a une certaine, du coup, fragilité légère qui ressort un petit peu dans ses mouvements, dans une sorte de maladresse, mais qui serait vraiment très, très tendre, enfin très jolie à regarder, en fait. Et c'est drôle parce qu'en plus, comme ça contraste beaucoup, je trouve, avec son caractère qui est plutôt costaud, pour le coup, c'est mignon. Enfin, je trouve ça très beau à observer. Adrienne, elle est... aussi, je pense, très très utile pour la cause des albinos, donc que ce soit africain, européen, etc., parce qu'elle est justement entre deux cultures. Il y a une qualité que j'aime, auquel je suis très, très sensible, c'est la générosité, en général. Et Adrienne, elle inspire la générosité, en fait, je trouve. Parce que c'est quelqu'un qui fait énormément de choses pour la cause des albinos. Et puis c'est quelqu'un qui aime mettre les gens en contact, favoriser les rencontres. Moi, ça m'avait aussi marqué quand donc on s'est rencontrés la première fois autour de Monsieur Ogou, donc cet albinos béninois qui avait des soucis de santé très graves, cancer de la gorge, etc. Et plusieurs jours après la rencontre, il se trouve qu'il avait réussi à faire prolonger son visa pour prolonger ses soins en France. Et elle m'avait contacté, énormément de gens, parce qu'il fallait qu'ils trouvent du coup un appartement, quelque part où vivre pendant les 3 mois de ses soins. Et elle s'est battue, quoi, pour lui, pour trouver un endroit où il puisse dormir, et elle l'a fait de manière en plus très naturelle, très humaine. Elle a été envoyée des textos, elle a appelé tout le monde, et voilà, et je la trouve très généreuse, parce qu'elle est sur plusieurs fronts, en fait. C'est-à-dire qu'elle est elle est dans le front de son association, mais elle est aussi humainement dans le rapport simple d'une personne à une autre personne. Et donc ça, c'est extrêmement important, et je pense qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus rare d'ailleurs, les gens qui sont capables d'œuvrer comme ça sans attendre un retour financier, un retour quelconque, quoi. Donc c'est vrai qu'en effet, quand je suis rentrée en France et que j'ai connu environ 2 semaines de déprime dû au fait que le Congo, ça m'a quand même apporté beaucoup, et la France à côté, ça me paraît assez ennuyeux, quoi. Et le fait de retrouver quelqu'un comme Adrienne, qui est extrêmement dynamique, qui fait beaucoup de choses, qui ne s'arrête jamais de lutter, ça m'a rappelé en effet le personnage de Texas, ouais. Et en ça, ça m'a rassurée.
Le micro de Lauriane Toulemont qui s'est baladée jusqu'à la voix de Soizic Sanson, réalisatrice documentaire du documentaire Mumba Texas, vous l'avez entendu sur un catcheur albinos du même nom. Au Congo, il y a un truc très joli qui se passe en ce moment, là, dans le studio, en enregistrement en direct, de l'instant 2. Et ben, c'est que Soizic est là, elle s'est cachée dans un petit coin. Et du coup, Adrienne, vous avez la voix et puis vous avez le regard maintenant. Quand vous entendez ce portrait, là, une réaction comme ça, là, qu'est-ce que vous vous dites ?
Elle a très bien cerné mon personnage.
Ouais. Ouais, ouais. Fragilité, générosité, c'est, ouais. Maladresse.
Oui, c'est aussi. Vrai. Oui. Oui.
Et puis entre deux cultures.
Pourtant, elle m'a rencontrée pas très longtemps, mais elle m'a déjà cernée. Et c'est franc, ce qu'elle a dit. Oui.
Vous voulez lui dire un petit mot, là, elle est en face?
Bah, je veux lui dire merci pour tout ce qu'elle a dit, que c'est exactement... ouais, elle m'a décrit vraiment tout à fait.
Ça vous touche? Ça vous surprend?
Oui, quand même, oui. Mais d'un côté, ça veut dire aussi que je suis... que la manière comment je suis... je suis vraiment authentique et que les vraies personnes, ils savent, quand ils me rencontrent, ils savent que je suis sincère. Je pense aussi, peut-être aussi, l'expérience aussi qu'elle a eue au Congo, bah ça lui a donné aussi...
un autre regard.
Oui, un autre regard. Et je pense que maintenant, elle cerne bien les personnes. Il suffit qu'elle les rencontre. C'est pas donné à tout le monde en plus, hein, parce que la plupart des gens, ils s'en foutent de l'autre, d'autrui. Quoi.
Mais vous, c'est pas votre cas, Adrienne. Comme Soizic, Sanson, vous en foutez pas des gens. Hein. On pourrait dire même l'inverse. Est-ce que vous êtes un Saint-Bernard? Est-ce que vous êtes... des fois, vous dites « Oh là là, je me sacrifie pour l'autre ».
Non.
Non.
Parce que pour
c'est
moi,
pas un effort.
C'est un devoir, en fin de compte. Ce que je le fais, c'est, je sais pas, c'est comme le matin, quand je me lève, je dois préparer mes enfants. Et après, je dois faire des choses pour l'Albini. C'est comme un quatrième enfant, ça. C'est au non, mais c'est vrai.
Ça fait du
c'est
boulot,
au quotidien,
hein.
Oui. Ouais. Mais ça me fait plaisir parce que en 36 ans de ma vie, je fais quelque chose que j'aime. Même si ça ne me rapporte pas d'argent, quand je me réveille le matin, je suis contente de le faire. Voilà, et j'ai un but dans ma vie. Et ce n'est pas donné à tout le monde de se lever le matin et de savoir quoi faire. Moi, je préfère faire ça, là, même si je ne gagne pas d'argent, ce n'est pas grave. Au moins, j'ai quelque chose, vous voyez. Je ne rentre pas dans la case comme un mouton de ce qu'on veut me faire, vous voyez. Mm-hmm. Je fais quelque chose qui est utile, d'abord pour moi-même, mais pour les autres. Et pour rien au monde, moi, je vais changer ça. Même si, avant, par exemple, je gagnais peut-être 3000 euros et que là, aujourd'hui, je vis avec peut-être 500 euros, je m'en fous. Ouais. Mais je sais que le matin, quand je me lève, je sais où est-ce que je vais.
L'instant 2,
l'instant 2,
prenez le temps de partager
sur Radio Grenouille.
On parlait de Colette, la romancière française, une des romancières qui a marqué quand même la littérature. Je vous lis juste une phrase qu'elle écrit dans La Vagabonde. Plus ça, c'est peut-être quelque chose qui vous parle, La Vagabonde. Vous, dans votre parcours, elle dit « Enfin délivrée de la vocation du silence et de dissimulation ». C'est ça qu'elle dit. Elle dit que quand elle a écrit, elle a pu finalement enlever toutes ses frontières, ses contraintes, la personne que la société voulait qu'elle soit en tant que femme et que ça l'a finalement libérée. Ça vous a libérée, cette
oui.
association ? Vous, personnellement,
déjà,
en
oui.
tant qu'albinos, en tant que femme, en tant qu'invisible, en tant que maman, hein, enfin, voilà.
Oui, parce
vous êtes libérée de tout ça ?
Bah oui, parce que malgré tout ce qui m'est arrivé... Bon, c'est encore douloureux d'en parler quelques fois.
Oui.
Parce que des choses dures, ça remonte, vous voyez, à la surface. Mais je pense que c'est bien d'en parler, parce que du coup, ben, ça libère les personnes. Comme ça, je ne vais pas rester vivre, vous voyez, avec de la rancune, de la haine... j'ai pas envie en plus de vivre et devenir une personne aigrie. Au contraire, moi je veux toujours apporter, même si j'ai pas reçu de l'amour, si je peux en donner, je vais le faire. Si je peux aider, je vais le faire. Voilà, en tout cas, toujours selon mes possibilités, je ferai.
Est-ce que vous aimez, Adrienne?
Maintenant, oui. Avant, non, mais maintenant, oui. Bizarrement, depuis, parce que même, vous voyez, quand j'ai eu mes enfants, eux, ils m'ont guéri.
Vos enfants ne sont pas albinos?
Non. Eux, ils m'ont guéri plus, en fin de compte, de la violence envers les autres. Parce que je me suis rendu compte que, malgré ce que je suis, quand, par exemple, on vous dit pendant peut-être 13 ans, oui, t'es qu'une sale albinos, tu ne te sers à rien, ton père et ta mère, ils t'ont abandonné, sale albinos, on se fait cracher dessus, on se fait taper tout le temps... Ben, franchement, quand on se regarde, on ne sait pas qui on est. On est complètement... on est perdu. Et après, on se rend compte que malgré, par exemple... Et en plus, après, à force qu'on nous dit ça tout le temps, on y croit, en fin de compte, qu'on ne sert à rien, qu'on n'est rien. Et du coup, ben...
On
voyez,
intègre
après,
ça. Ouais.
Voilà, après, vous voyez, cette personne qui n'est rien, elle est capable de faire quelque chose... de très bien et de normal, voyez.
Ouais.
Alors quand j'ai fait par exemple Steven qui est là en 2001, eh ben j'ai vu que moi malgré tout ce qui m'est arrivé que j'étais capable de créer un être très beau que tout le monde enviait et tout, voilà. Moi j'étais très contente, mais après Après, il y a la société, elle nous envoie encore une autre image, parce qu'on est albinos, l'enfant, il a rien à voir avec moi. Après, il faut être capable aussi de s'en occuper. Après, il y a l'image déjà de la femme. Après, il y a l'image de la mère, toutes ces choses-là. Et en plus, ce qui est bien, c'est que je les ai construits, tout ça, en très peu de temps, vous voyez. Parce que, comme moi, j'ai rien reçu du tout. Donc, j'ai
grandi... Vous avez voulu tout donner d'un coup.
Voilà, j'ai grandi... Mais d'un côté, c'est très bien. Parce que, vous voyez, aujourd'hui, à 36 ans, j'ai 3 enfants. J'ai une femme...
Accomplie.
Parce que maintenant, ça y est, je m'accepte. J'ai plus besoin de sortir dehors avec des artifices ou à me déguiser.
Ouais.
Non, mais c'est vrai.
Vous faisiez ça, après. Bah alors, oui. Mettez une perruque, quelque
voilà,
chose.
Mais c'est vrai. Ça. Mais c'est
pour cacher l'albinisme.
Mais oui, je sortais déguisée. En plus, je vous l'ai dit, je sortais déguisée. Aujourd'hui, j'ai plus besoin de sortir déguisée. Je m'accepte comme je suis. Vous voyez, je suis fière, je suis très très fière, je vous assure.
Ça
et malgré
voit.
Que avant j'étais une cassose, et ben maintenant, maintenant ça y est, je m'assume avec mes défauts.
Vous êtes
avec...
une cassose qui a réussi. Ça c'est un peu
oui,
c'est le message
réussi,
de l'instant 2 ça.
Qui a réussi à... Et pourtant vous voyez, je ne gagne pas 5000 euros, 10 000 euros par mois, mais je m'en fous. Mais maintenant ça y est, je sais qui je suis.
Est-ce qu'on peut même dire que vous êtes fière d'être albinos aujourd'hui ?
Oui, oui, en plus, oui, oui. Je suis fière de ce que je suis. Après, par exemple, vous voyez, si par exemple, si Dieu, par exemple, il démolit le monde
oui.
et qu'il fait qu'on revient sur Terre, s'il me remet encore en tant qu'albinos, je dirais oui. Parce que finalement, je m'assume. Et quand j'ai vu l'intérieur de chaque être humain, que ça soit noir, jaune, rouge et tout, ben je me rends compte que dans mon corps de femme albinos, ben c'est ma place. Voilà, c'est ma place là.
Là, c'est votre place.
Oui.
Où est-ce que vous vous sentez chez vous, Adrienne, aujourd'hui ?
Partout.
Partout ?
Parce que maintenant, je peux aller partout. Voilà, je peux aller partout et parler de mon histoire partout et sensibiliser les gens partout. De qui je suis et de ce qu'on est.
Que ce soit au Cameroun, en c'est France, ça. Vos deux oui. pays d'origine, et c'est puis ça. Ailleurs, voilà. Sans frontières.
Oui.
Tiens, ça me donne une idée, c'est que Julia Rondon, c'est une chroniqueuse, comme chaque mois, on change de peau, on change de couleur, nous aussi, et grâce à elle, eh bien, on se demande un peu qui nous sommes. Aujourd'hui, Julia Rondon, elle a décidé de nous emmener vers un problème qui vous touche probablement, Adrienne, celui des réfugiés. Écoutez sa chronique.
Qui est-ce ? Qui est là ? Qui suis-je ?
Bonjour Julia Rondon, qui êtes-vous aujourd'hui ?
Aujourd'hui, je crois qu'il faut le dire sans détour et sans honte, je suis un touriste qui n'a rien compris au tourisme à l'européenne. Quand avec ma femme, il a fallu choisir un lieu pour les vacances avec nos enfants, on a de suite pensé à l'Europe. Ça nous semblait exotique et surtout, avec tout l'argent qu'on a à dépenser, on a pensé que c'était la destination idéale pour consommer sans compter. Ce faisant, sans attendre, nous nous sommes rendus avec ma femme dans une agence de voyage pour réserver un billet. Mais quelle n'a pas été notre erreur ? Déjà, dès le trajet en bateau, ça a été épouvantable. On nous a fait embarquer en pleine nuit avec des petits gilets et ça bougeait, ça tanguait. Ma femme a vomi, les petits n'arrêtaient pas d'avoir peur. Ils n'arrêtaient pas de penser qu'ils allaient finir morts, la tête la première dans le sable sur une plage. J'ai tenté de les rassurer, je leur ai dit « Allons, voyons les enfants, allons, on est en Europe. Cela fait des siècles que ce genre d'événement tragique ne se produit plus. » Mais rien n'y a fait, ils ont continué d'avoir peur, d'avoir froid, enfin, jusqu'au petit matin, jusqu'à ce que nous accostions sur une plage. Et là, le comité d'accueil, mais franchement, zéro, pas un cocktail pour nous accueillir, pas de chansons, pas de musique, rien. Et ça, ce n'était que le début. Ensuite, aucun bus n'était disponible, on nous a donc fait marcher dans une rivière gelée pendant des heures, et quand est venu le repas du midi, mais rien n'avait été prévu. Les petits étaient affamés, on a fini par manger des baies que nous avons cueillies à même l'arbus, mais rendez-vous compte ! On s'est ensuite retrouvés à une frontière, alors là, pour une raison franchement que j'ignore encore, nous étions tous regroupés à côté d'un grillage, et ils se sont mis à lancer des gaz lacrymogènes, on s'est tous mis à pleurer, à avoir la gorge qui gratte, et là, j'ai dit, ça suffit ! Ça suffit, je veux voir un responsable immédiatement. Un responsable s'est présenté à moi et je lui ai adressé sans trembler les paroles suivantes. Je lui ai dit « Monsieur, c'est ainsi que l'Europe traite ses touristes fortunés qui n'ont pour seule vocation de dépenser et de consommer à loisir dans vos pays occidentaux. Alors ça, je n'aurais jamais imaginé rencontrer les difficultés que nous avons rencontrées. Au contraire même, je pensais que nous étions particulièrement les bienvenus dans votre pays. Il me semble même que vous avez déjà déroulé le tapis rouge devant des touristes bien moins fortunés que nous. » Et là, vous savez ce qu'il m'a répondu ? Non mais vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit « Mais pas du tout, monsieur. L'Europe a des priorités qui ne sont dictées ni par l'argent ni par l'intérêt financier. Vous seriez réfugié politique d'un pays en guerre, disons par exemple réfugié d'un pays dans lequel son dirigeant massacre son propre peuple, ou dans lequel des groupes de terroristes s'emploient à déployer une cruauté sans pareil. Là, vous auriez le droit de réclamer quelque chose. Vous n'aurez d'ailleurs jamais rencontré les difficultés que vous avez rencontrées. L'Europe vous aurait accueilli les bras ouverts. À quoi pensez-vous, monsieur? Vous croyez, monsieur, qu'avec votre argent, votre richesse, vous avez tous les droits en Europe? Mais non, monsieur, ce sont les droits de l'homme qui gouvernent ici. Pas la finance, pas les marchés, pas le capitalisme à tout craint. Non, ici, monsieur, l'Europe, elle s'engage pour l'humanité. Alors, vos petits problèmes de petits touristes qui rencontrent quelques petits désagréments pendant votre petit voyage, monsieur, cela n'a pas sa place dans ce continent des droits de l'homme, des lumières, qui défend d'abord les réfugiés, les pauvres et les opprimés, avant de défendre la richesse ou le profit. Je suis restée personnellement abasourdie par ces paroles. Et là, j'ai regardé ma femme et je lui ai dit, mais on a tout raté. On a tout raté, chérie, parce qu'on avait oublié que, bien évidemment, avant de défendre l'argent, les bénéfices ou les dividendes, l'Europe se dresse en priorité contre la barbarie pour défendre l'humanité. Et qu'à ce titre, sont bienvenus les réfugiés politiques qui endurent, au jour le jour, des horreurs sans nul nom.
Merci Julia Rondon. Vous êtes à l'écoute de l'instant 2 du mois de novembre avec Adrienne, camerounaise, française, albinos, femme, mère, engagée dans son association Anida depuis 2011. Adrienne, quand vous entendez cette chronique, plutôt en colère et plutôt décalée, j'ai envie de vous demander si vous croyez encore aux droits de l'homme avec ce qui se passe en ce moment en Europe. Droits de l'homme à la française, aux droits de l'homme que vous défendez aussi hein, dans votre association. Pour sensibiliser à l'albinisme.
Franchement, je suis un peu perplexe parce que comme là, je veux pas trop aussi m'avancer au niveau politique parce que avant tout, moi, je suis pour aider.
Oui, les gens.
Mais ça, moi, je suis plus dans le social.
Ce que dit Julia, ça vous touche,
c'est
ça.
Oui, c'est vrai et sans être vrai, ce qu'elle dit, moi, je suis pas trop c'est-à-dire pour tout ce qu'elle raconte parce que le fait aussi qu'il y ait des réfugiés, par exemple, ici en France. C'est ils viennent en France parce que chez eux, ils peuvent pas rester chez eux, mais ils peuvent pas rester chez eux non plus parce que les Occidentaux aussi vont piller aussi chez eux. Voilà. Donc c'est bien d'accueillir les réfugiés en Europe, mais ce serait bien aussi que les Européens aussi arrêtent de semer des guerres dans leur pays pour piller des choses et que eux ils aient pas de quoi manger. Donc c'est pour ça qu'ils viennent ici.
Donc vous pensez
parce qu'ils croient que tout ici, mais ici tout n'est pas rose non plus.
Bien sûr. Et vous en avez expérimenté les choses ici en venant en France.
Oui aussi.
Que ce n'est pas rose forcément. Et du coup vous dites quoi? C'est que les Occidentaux seraient aussi responsables, les gouvernements aussi,
oui,
des pays.
Oui.
Et
oui.
On fait quoi alors?
Ben, on fait rien, parce que de toute façon, c'est eux qui ont le pouvoir. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Nous, on est des simples personnes, on ne peut rien faire. Ben, à part en parler peut-être informer la population de la réalité de ce qui se passe, mais l'information aussi, elle est filtrée. Donc souvent aussi, si on ne s'intéresse pas, par exemple, sur des sujets bien précis, la plupart des populations, ils ne sont pas au courant de ce qui se passe.
Vous trouvez par exemple que l'albinisme, aujourd'hui, on n'en parle pas assez dans les médias? On en parle mal?
On en parle, mais ce qu'on montre toujours dans les médias, c'est toujours les massacres en Tanzanie.
Ouais.
Alors qu'à côté, il y a des personnes qui font des choses aussi. C'est pas que en Tanzanie. Il y a des gens qui font des films documentaires, mais pour, par exemple, positiver les choses. Il y a des gens qui font des actions. Il y a plein de gens. Par contre, moi, je pense que le fait, par exemple, que les gens fassent des choses pour montrer une autre image de l'albinisme, on ne montre pas. Il n'y a pas assez, en fin de compte. Ils vont montrer toujours les massacres, comment les albinos se font découper, comment ils ont le cancer, comment... Non, mais c'est vrai, comment... Mais ils ne vont pas montrer des... Ils vont
les
pas
actions
montrer
positives.
Beaucoup, voilà, les actions positives.
Comme la vôtre. Comme la vôtre.
Est-ce que moi ou les autres,
oui, mais bon, là, vous êtes là.
Ils n'en parlent pas tout le temps.
Vous sentez utile, vous, là, aujourd'hui, après 4 ans, après la création d'Anida, votre association
Franchement, non. Moi, je ne me
vrai.
Sens pas vraiment utile. Non, parce que je n'ai rien fait vraiment de concret. Pour moi, je trouve que je n'ai rien fait de concret. Hein,
c'est-à-dire de concret, qu'est-ce que vous entendez par là? Vous avez quand même envoyé des médicaments pour, pour les albinos, des crèmes solaires. Vous faites des émissions,
ouais,
vous êtes
ça,
représenter.
Après, peut-être parce que moi, le fait aussi, comme je veux tellement aussi apporter mon aide, donc pour moi, j'ai l'impression que ce que je fais, c'est inutile.
Ouais.
Moi, j'ai l'impression que ce que je fais, c'est inutile. Franchement, que c'est... Mais après, je fais selon mes moyens, voilà. Mais si, par exemple, j'avais les moyens de faire plus de choses, je ferais les choses encore meilleures que ça. Mais j'y arrive pas parce que j'ai pas tous les fonds financiers qu'il faut. C'est plus ça, mon truc. Mais
bah, peut-être
je trouve que c'est pas assez, en fin de compte, que ce que je fais, c'est pas assez.
Bon, on va essayer de relayer tout ça pour que vous ayez encore plus de sous. Ce serait bien, non, Adrienne?
Bah, ce serait bien, en fin de compte, même si les gens ils ne donnent pas des sous, par ouais. exemple, qui nous permettent d'aller faire des campagnes de sensibilisation dans les pays là vraiment où ça ne va pas, qui nous facilitent, par exemple, le transport de matériel pour aller donner aux personnes atteintes d'albinisme, des choses comme ça, c'est plus ça.
Moi, j'ai un pouvoir magique dans l'émission de l'Instant 2, c'est que, en fait, d'un coup, on peut vous faire devenir d'autres personnes. Ça s'appelle l'interview « Si vous étiez ». Et vous savez, c'est un peu une interview qui va vite comme ça. Vous me dites la première chose à laquelle vous pensez, Adrienne, et un petit questionnaire à la Proust, et puis ça vous permettra comme ça de vous mettre dans les pattes de quelqu'un d'autre. C'est déjà pas mal comme pouvoir magique.
Si vous étiez...
Adrienne, si vous étiez une autre figure féminine, une grande figure de lutte, de combat, ou une figure d'ailleurs féminine, une femme, publique et célèbre, vivante ou morte.
Donc, je dirais par... comment est la femme de Barack Obama ?
Michelle !
Voilà, celle-là.
Pourquoi celle-là ?
Déjà parce que c'est une noire. Je pense que...
Vous aimeriez être... C'est une question vraiment très frontale que je vous pose. Vous aimeriez être noire, parfois ?
Avant, oui, mais plus maintenant. Quand j'étais plus jeune, oui. D'accord. Des fois, j'utilisais même de l'auto-bronzant. Mais ça, c'est toujours un
pour
problème d'identité.
Pour contrer votre albinisme, c'est un
oui. Mais c'est plus parce que je vous dis que, à cause de la maltraitance, en fin de compte, psychologique, et parce que nos parents sont noirs. Oui. Et au début, si on nous a pas donné des explications de ce qu'on est, c'est difficile de se construire et c'est difficile d'avoir une identité... je vous assure.
Bah de ne pas savoir où l'on va si on ne sait pas d'où l'on vient.
C'est ça, oui.
Donc Michelle Obama, oui. Pour une autre femme.
Oui.
Parce que Obama, vous le trouvez sexy ?
Non, mais je préfère plus sa femme que lui.
Ah bon ?
Je ne sais pas pourquoi.
Parce que c'est une femme, peut-être.
Ouais.
Et qu'elle est engagée aussi.
Aussi, parce qu'elle fait plein d'actions aussi. Oui, c'est quand même... Oui, je préfère Michelle
Obama. C'est le dernier mot ?
Oui.
D'accord. Si vous étiez un pays, Adrienne ?
L'Afrique.
Enfin, c'est un pays, l'Afrique. Il y a votre fils, Steven, qui est dans le studio, qui fait non, pas du tout n'importe quoi. Ma mère...
Cameroun.
Il se moque de sa mère. Ah, bon.
Le Cameroun.
Mais c'est intéressant de répondre l'Afrique, comme ça, d'un coup. C'est un pays pour vous, l'Afrique ? Ça pourrait être un pays ? Pourtant, c'est
oui.
composé de tellement
oui,
de différences.
Oui, parce qu'on est tous africains, à la base. Mais entre nous, il y a la guerre. Donc, enfin, ils sont pas unis.
Si vous aviez le pouvoir, comme ça, de créer un pays qui s'appelle l'Afrique, vous le feriez ?
Oui.
Comme ça.
Je pense qu'avant même l'Afrique, c'était un seul bloc hein, avant que ça se fende en plusieurs...
On garde l'Afrique, alors un pays, oui. L'Afrique, Adrienne. Si vous étiez une couleur ?
Le blanc.
Ah, pour une albinos, c'est presque pas original.
Bon, je sais pas, mais je préfère le blanc.
Vous préférez le blanc ?
Oui.
Vous êtes pleine de couleurs, vous avez du rouge, vous avez du rose sur vous. Non,
c'est la pureté, le blanc. C'est neutre.
Il est comment votre pantalon ? Il est vert. C'est neutre. Vous n'êtes pas quelqu'un de neutre ni de lisse, hein, Adrienne. Quelqu'un de pur, probablement, oui.
Ouais.
Sauf pendant votre adolescence, vous faisiez plein de bêtises, vous me l'avez dit. Si vous étiez une autre cause du XXe siècle, une grande cause, ou du XXIe d'ailleurs, au-delà de la sensibilisation à l'albinisme, que vous défendez ?
Les enfants, le droit des enfants à la scolarité, qu'ils soient tous égaux, qu'ils puissent tous aller à l'école, qu'ils aient tous le même statut.
Ce que vous espérez pour vos enfants à vous, déjà.
Oui, qu'ils soient heureux aussi, que tous les enfants soient heureux de vivre, qu'ils puissent s'épanouir.
Si vous étiez un plat... C'est bon la cuisine aussi. Il y a plein d'amour dans la cuisine.
Ouais, c'est un plat de chez moi.
Allez.
Après, je sais pas si je le dis, c'est le mets de pistache.
Le mets de pistache ?
Oui. C'est trop bon, ça.
Mais pourquoi c'est bon ? Moi, je connais pas. Donnez-moi envie d'en manger à midi.
Bah, franchement, je sais même pas. Parce que moi-même, je sais même pas le préparer. Mais je sais que. quand je vais au Cameroun, ma grand-mère, j'ai une grand-mère, elle est très vieille, mais elle, comme elle sait que j'aime beaucoup ça, à chaque fois, elle me prépare toujours ça. Et des fois, elle marche au moins 15 km hein, pour venir me ramener ça. Et je suis toujours aussi émue et émerveillée parce que bah, c'est une vieille. Et à chaque fois, quand elle vient, elle me fait ça. Moi, je suis tellement... Je suis contente. Donc, à chaque fois, je vais la remercier tant de fois et tout. Voilà.
Si vous étiez un mot, un seul.
L'unité.
De l'Afrique, du monde, de l'univers, des gens.
Oui.
De l'amour.
L'unité.
Je pensais que vous allez me dire l'amour comme mot. Je suis déçue.
Mais l'amour, l'unité, c'est mieux.
En quoi c'est mieux ?
Bah, quand on est unis, il y a moins de. Je sais pas. C'est moins violent, déjà, c'est pas la... Attendez, il y a l'unité, après l'amour va venir, mais il peut y avoir l'amour, mais il n'y a pas d'unité.
Il n'est pas d'accord, votre fils.
Ah oui.
Le plus beau moment de votre vie, Adrienne.
La naissance de mes enfants.
Ah, il y en a quatre ? Non, trois. Il y a trois moments, alors.
Alors, la naissance de Steven.
Ils s'appellent comment, les deux autres, vos enfants ?
Sarah et Marissa.
D'accord. Bon, ça va, on accepte trois beaux moments. Ouais. Allez, c'est vraiment parce que c'est vous. Dernière question avant de finir l'émission en musique. Un SMS à Dieu en trois mots.
Faut qu'il revienne, c'est grave.
Faut qu'il revienne,
oui.
C'est grave. Ouais, faut qu'il revienne, ça marche. Trois mots, c'est grave. On va essayer de lui envoyer un peu de blues à Dieu. Un peu de blues. Ça s'appelle Ruthie Foster et c'est une découverte que je vous donne dans l'instant 2. Elle chante le blues, elle le chante comme vous, avec ses tripes, comme vous vous engagez pour l'albinisme et pour l'unité et l'amour. Écoutons ça ensemble, si vous voulez bien, Adrien.
Oh, trying to find a new home. Trying to write a new song, trying to find a rhythm that'll help me. Oh, wanna get through it. Oh, and I keep singing the blues. Everybody's saying you gotta get away and go deal with the real stuff, but I don't know if it's gonna be true enough. Oh no, they keep singing the blues. Oh, you know I'm just passing on, singing the same old songs. Oh, sometimes it feels so right and I don't feel all alone. Oh, when the music fades and the crowd drives away, I'm staring at the mirror. Singing the blues. Yeah, staring at the mirror. Yeah, yeah. Singing the blues. Yeah, you know I can pop a little up reggae and I can lift and appreciate, but I'd rather be high on. Yeah. Singing the blues. I've been in and out of soul, even rock and roll, but a little Bobby Blue Bland never, never gets old. And I realize, oh, I gotta hear me some blues. Yeah, you know I'm just passing on, singing the same old songs. Sometimes it feels so right and I don't feel all alone. Yeah, but when the music fades and the crowd drives away, I'm staring at the mirror. Oh, I'm singing the blues. Yeah, I'm staring at the mirror. Yeah. Oh, yes, I am singing the blues. Hey, oh, you know I'm just passing on, singing the same old songs. Sometimes it feels so right and I don't feel all alone. Oh, but
when the music fades and the crowd drives away. I'm staring at the mirror, yeah, singing the blues, yeah. Oh, I'm staring at the mirror, yeah. I'm still singing the blues, yeah. Staring at the mirror, yeah. Still staring at the mirror, yeah. Oh, singing the blues, yes I am.
Jolie découverte ça du mois de novembre. Vous êtes dans l'instant 2, c'était Ruthie Foster sur Radio Grenouille depuis Radio Campus Paris.
L'instant 2,
l'instant 2,
l'instant 2. Vous allez rencontrer quelqu'un.
Adrienne Tanque, on va terminer l'émission, on arrive bientôt à la fin. C'était intense, hein ?
Oui.
Dites donc pour moi aussi. Sachez-le. Si je vous demande comment vous parlez de l'albinisme à vos enfants, vous en avez trois, vous êtes albinos, ils ne le sont pas. Comment vous abordez le sujet avec eux? Si vous l'abordez d'ailleurs avec des mots, hein, c'est pas forcément...
Mais ils connaissent, j'aurais expliqué que je n'avais pas de mélanine, que la mélanine c'est ce qui permet de bronzer, qui donne la couleur de la peau, et que moi je n'en avais pas. Et que je leur expliquais que j'étais née comme ça et que ça existe dans tous les êtres vivants. Ils connaissent, ouais. Ils savent aussi que dans nos pays, on est pourchassés.
Vous les avez emmenés au Cameroun ?
Oui, ils sont déjà allés aussi au Cameroun.
Comment ça s'est passé ?
Je les ai emmenés déjà aussi pour qu'ils rencontrent aussi d'autres albinos. Donc de eux-mêmes, ils ont vu qu'ils n'étaient pas pareils qu'ils étaient pareils, mais qu'eux aussi, physiquement, qu'ils n'étaient pas pareils aussi au niveau de la peau.
Oui.
Donc, souvent aussi, même dans mes événements, je les emmène. Lors de mes voyages aussi, quand je pars en Afrique, je les emmène chacun à leur tour, qu'ils voient aussi une autre... C'est pour ça aussi, mes enfants, ils ont un autre regard aussi vers le monde, du monde, parce qu'ils voyagent, donc ils voient une autre réalité que la France. Donc, ils savent comment c'est ailleurs. Alors, du coup... Bon, d'un côté, c'est bien parce que c'est des enfants qui sont ouverts, ils n'ont pas peur de la différence. C'est pour ça, même d'ailleurs, ici en France, la plupart des personnes albinos, c'est mes enfants qui les reconnaissent dans la rue et qui vont les voir en leur expliquant « Tu sais, ma maman, elle est albino ceci. » Et du coup, ils ont, même les albinos, ils sont plus en confiance, plus en confiance quand c'est les enfants qui viennent les aborder dans la rue, ils ont moins peur.
Ouais.
Et la plupart des adhérents d'Anida, c'est comme ça qu'ils les ont rencontrés. C'est eux-mêmes, à force de les sensibiliser, donc eux, ils reconnaissent maintenant les albinos. De toute origine, hein, même les blancs, ils arrivent à les reconnaître.
Ouais. Votre association Anida, on mettra bien sûr toutes les informations sur la page de l'Instant 2. Je voudrais terminer sur vos cheveux.
Oui.
Adrienne, parce qu'ils sont magnifiques. Ils sont d'un blond incroyable. Je pense que toutes les femmes qui vous voient là se disent « Mon Dieu, je veux la même couleur ». C'est naturel, hein ?
Oui, ils sont blonds comme ça. Oui.
Blonds comme ça, mais c'est même pas comme les blés. Même les blés, ils sont fades à côté de vos cheveux. Il y a plein de tresses, vous avez des dreads ?
Oui.
C'est ça ? Ça aussi, oui. C'est un peu une culture plutôt afro, plutôt africaine, que vous revendiquez toujours. C'est une manière de le mettre en avant.
C'est ça, oui. De s'assumer aussi ce qu'on est. Et puis, ça facilite aussi au niveau du coiffage parce que comme ils sont crépus et tout, donc du coup, le matin, j'ai juste à mettre de l'huile d'argan et puis après, je mets un coup de brosse et c'est fini.
Et hop, c'est fait. Ça vous fait gagner du temps parce que j'imagine que maman, femme, épouse, présidente et fondatrice de l'association Anida, ça fait... Beaucoup de choses à porter.
C'est ça.
Qu'est-ce que vous avez encore envie de réaliser ? Vous avez des rêves ? Adrienne ?
Oui, quand même, oui. Moi, j'aimerais partir un an en Afrique, faire une tournée, en fin de compte, d'un an en Afrique, de sensibilisation en Afrique. Parce que aussi, l'Afrique, j'ai pas eu... Comme j'ai quitté très tôt aussi l'Afrique, donc à part aller là-bas faire des campagnes de sensibilisation, je fais tout le temps que 10 jours. Mais j'ai jamais vécu... vraiment en Afrique pendant une année. Donc même mon propre continent, je ne connais pas du tout. Et moi, j'aimerais y aller un an et du coup, aller dans chacun de ces pays-là, faire des campagnes de sensibilisation, rencontrer des gens, et ils distribuent le matériel. C'est ça que je voudrais vraiment.
Avec vous dans ce cas-là, d'accord. Comme le Che Guevara qui est parti faire ça quand il était jeune médecin en Amérique latine.
C'est ça que j'aimerais. Ça, c'est mon prochain rêve que j'aimerais réaliser.
Eh bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Adrienne, merci beaucoup d'avoir donné un nouvel éclairage sur l'albinisme. Merci aussi d'avoir livré une partie intime de vous. Je ne vous remercierai jamais assez de ça, surtout de manière authentique, sans phare et au-delà des couleurs, parce que finalement, peu importe les couleurs, tant que l'amour est là. Il y a un proverbe africain qui dit « Là où il y a de l'amour, il ne fait jamais nuit ».
C'est vrai.
On reste sur ça alors.
Oui, c'est vrai.
Merci Adrienne.
Merci à vous.
D'avoir été avec nous. J'en profite aussi pour remercier mon petit équipage, et quel joli équipage. Julia Rondon, Lauriane Toulemont qui est aussi à la technique et à la réalisation de cette émission. Je vous assure, il n'y a pas plus sexy comme technicienne. Si, si, on a une pensée bien sûr pour Sébastien et Jean-Baptiste à Radio Grenouille qui sont aussi sexy comme techniciens. Pas de problème. Merci à Soizic Sanson d'avoir été de la partie également. Vous retrouvez les liens vers son documentaire sur notre catcheur albinos au Congo sur la page de l'instant 2. Et puis moi j'ai plus qu'à vous dire, aimons-nous les uns les autres, qu'importe les couleurs, seule la rencontre et l'échange
compte.
Merci pour ce dernier mot Adrienne. À très vite.
Merci bien.
À bientôt.
À bientôt.
L'instant 2 sur Radio Grenouille.